Europe 1, la libre antenne, Sana Blanger.
Et bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole, parce que ça fait du bien et vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors chaque soir de cet été, j'ai décidé de partager avec vous un mot qui m'a marqué ou qui m'a inspiré dans la journée. Ce soir, j'ai choisi le mot « indifférence ». Lourde de conséquences, l'indifférence est certainement aujourd'hui l'un des principaux maux de notre société. Combien de fois entendons-nous des phrases telles que « ce n'est pas mon problème »,« si ça leur convient, moi je m'en moque » ou « ce n'est pas notre famille, alors cela ne nous regarde pas » et tant d'autres phrases témoignant d'un égoïsme ambiant parfois très marqué. La difficulté de cette situation vient du fait que l'indifférence est plus lourde à supporter que la haine déclarée. Sa propre existence est mise en cause car on ne se voit plus dans le regard des autres. Heureusement, des associations se mobilisent face à l'indifférence et nous proposent de ne pas nous isoler. D'ailleurs, en connaissez-vous et en êtes-vous membre? Quels conseils souhaiteriez-vous partager pour que ceux qui se sentent victimes de l'indifférence puissent sortir de leur torpeur? Appelez-nous au 3921 pour témoigner de votre intérêt sur l'indifférence et partager votre avis, vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qu'est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 739-21 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. La Dream Team est prête, Adrien et Bastien vous répondront au standard du 39-21 et d'ailleurs il y a de la place, donc vous pouvez nous contacter pour passer en direct et c'est Julien Blanc qui réalise l'émission ce soir. A tout de suite sur Europe 1.
Sana Blanger vous écoute sur Europe 1.
Accueillons notre première auditrice et c'est Anne. Bonsoir Anne.
Bonsoir Sana.
Bienvenue.
Excusez-moi ma voix parce que j'ai...
Vous avez...
Je suis enrhumée puis j'ai une voix grave.
Bon, il n'y a pas à s'excuser, alors tout va bien. Et bon rétablissement si vous êtes malade.
Non, juste un peu enrhumée.
Un petit peu enrhumée, bon. Bienvenue à la Libre Antenne, Anne.
Oui, je suis un peu stressée aussi, c'est pas... j'ai tout à la fois.
Bon, c'est normal. Anne, je suis très contente de vous avoir en direct, parce que, on va le dire aux auditeurs, hein, on s'envoie des petits mots de temps en temps.
Oui.
Voilà, sur un réseau, donc quand on m'écrit, je réponds. Et quand vous m'avez dit tout à l'heure que vous alliez m'appeler, j'étais vraiment très très heureuse. Merci infiniment d'avoir le courage de nous partager votre histoire. Donc je suis très touchée.
Ouais, je voulais vous remercier d'ailleurs pour le doux message que vous avez envoyé l'autre jour. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Mais c'est normal.
Je ne sais pas trop par où commencer.
Parce que vous voulez...
Je voulais vous parler des rêves et des cauchemars qui bousillent ma vie en ce moment.
Qu'est-ce qui vous
arrive? Je vais d'abord vous parler des raisons de ces cauchemars.
D'accord.
Vous n'hésitez pas à m'interrompre, parce que des fois je parle.
D'accord. Forcément, je vous poserai des questions. Donc, ok, très bien.
D'accord. Donc, quand j'étais petite, j'ai subi des attouchements de mon père, que j'adorais, qui m'avait expliqué que les gentils papas, ils donnaient des caresses, et que les méchants papas, ils donnaient des fessées. Donc moi, je prenais ça, j'avais, je sais pas, je pense 3-4 ans.
Vous aviez 3-4 ans quand ça... D'accord.
Oui, quand ça a commencé... Le psy que j'ai vu, parce que j'ai fait un déni par rapport à ça, le psy que j'ai vu à ce moment-là, à 38 ans, quand tout est revenu, m'a dit qu'il pensait que ça avait commencé beaucoup plus tôt,
d'accord,
quand j'étais nourrisson. Et ça, je ne me souviens pas du tout.
Et puis vous n'aurez probablement jamais la réponse.
Non.
Oui.
Et mon père est mort d'une tumeur au cerveau quand j'avais 13 ans. Et je l'adorais toujours. Donc j'ai même fait une tentative de suicide à ce moment-là. En reprochant à ma mère d'être en vie alors que mon père était mort. Bon,
ah oui.
Bon, j'avais 13 ans.
Je note tout ça parce que forcément j'aurai des questions à vous poser après. Donc vous subissez des attouchements dès l'âge de 3-4 ans, en tout cas c'est ce qui semble...
Les souvenirs remontent à
voilà, 3-4 ans. Voilà, les souvenirs ans, remontent petit à petit. Ça a duré jusqu'à l'âge de 13 ans?
De 12 ans. À 12 ans, j'ai été opérée d'une jambe et donc il ne pouvait plus y avoir de... Quand il est décédé, j'étais allongée, je n'ai pas pu assister à son enterrement, ni voilà. Bon.
Votre mère était au courant?
Je pense. Au moment de sa mort, en 2007, alors que je n'attendais plus rien, je me suis occupée d'elle beaucoup. Et elle m'a dit qu'en fin de compte, ça lui était revenu et qu'elle m'a présenté ses excuses.
Oui.
Que j'ai accepté.
D'accord. Vous êtes la seule dans la famille, Anne?
Non, on est deux.
Vous êtes deux.
Mais d'après ma sœur, il ne s'est rien passé avec elle.
C'est l'aînée ou êtes-vous l'aînée?
Non, je suis la seconde.
D'accord.
Pour la troisième, parce qu'il y a eu un enfant décédé avant ma sœur.
Donc ces attouchements ont duré jusqu'à l'âge de 12 ans, puisque vous avez été
oui.
après opéré d'une jambe. À quel
oui.
moment, Anne, vous avez compris que ce que vous... Enfin, ce que vous faisiez, votre père, n'était pas normal?
Je crois que j'ai toujours su, parce que j'étais terrorisée petite quand j'étais malade. Bon. Quand on appelait un médecin, je pensais que ça pouvait se voir. Il y a eu aussi des dessins à l'école où je dessinais, des enfants avec une maman, et la maîtresse m'avait demandé pourquoi. Pourquoi il n'y a pas le papa? Je lui dis, le papa, il n'existe pas. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Il y a une maîtresse qui avait convoqué mes parents pensant que j'étais battue.
Ah oui.
Alors que je n'étais pas. Comme ma mère avait la main leste, comme disait mon père, mais bon, je n'étais pas battue. Je n'étais pas une enfant battue.
Est-ce que, Anne, vous aviez souvenir, justement, à l'école, que ce soit... les maîtresses ou autres personnes de l'enseignement, est-ce que vous aviez souvenir éventuellement d'une personne qui vous ait posé la question directement s'il se passait autre
une
chose?
Une maîtresse, oui.
Oui.
Elle m'a demandé, parce que le samedi matin, ma mère partait au marché et mon père était à la maison. Et un samedi matin, je suis allé à l'école et je dis que je ne voulais pas rentrer chez moi. Donc, je lui ai dit que c'était parce qu'il y avait mon papa qui était seul et que je ne voulais pas rentrer chez moi. Et c'est elle qui a pensé que mon père me battait.
D'accord.
Parce que je ne suis pas allée plus loin.
Est-ce que vous aviez le sentiment d'être différente à l'école?
Non, j'étais très, très gaie, très joyeuse. J'avais beaucoup d'amis.
Oui.
J'étais le bouton de train, j'étais...
Et est-ce que vous en parliez?
Non.
Non. Vous aviez conscience que c'était quelque chose de tabou ou parce que votre père vous rappelait qu'il fallait surtout garder le secret?
Mon père me disait que ça c'est toute petite.
Hein, ouais.
Parce qu'après j'ai su que c'était pas vrai, quand même. Il me disait que de me dépêcher de grandir et que... quand je serai grande, ils m'épouseraient et qu'on partirait.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et mon père n'a touché personne d'autre.
Que vous.
Je sais que j'ai l'air de le défendre parce que je ne sais plus.
Mais...
parce qu'il avait une tumeur au cerveau. Il pense la tumeur, il a eu pendant 30 ans. Ils ont fait une enquête dessus, sur cette tumeur qu'il a gardée tellement de temps. Et je pense que ça a déréglé quelque chose. Tu y trouves toujours des excuses.
Oui, c'est ce que j'entends. Est-ce que vous l'avez haï? Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre existence?
Jamais. J'y suis jamais arrivé, non.
Mais vous lui avez pardonné?
Oui. Alors qu'il a bousillé ma vie. Parce qu'à cause de lui, j'ai pas eu d'enfant. Pardon. Parce qu'à cause de lui, j'ai pas eu d'enfant. J'ai eu des gros problèmes à l'adolescence, quand je rencontrais un garçon. Et...
C'était compliqué pour vous, l'intimité?
C'était compliqué, oui. Ouais. Surtout que je rencontrais que des personnes très douces. J'ai eu de l'achancement au niveau de mes relations.
Ouais.
Et je me demande si j'avais rencontré quelqu'un de brutal. C'est-à-dire la douceur me faisait penser à mon père. Ça paraît bizarre, je sais. Il y a beaucoup de gens qui vont être choqués par ce que je dis, mais je ne sais pas. Mon père, il m'endormait sous ses caresses. C'est...
Donc, il y avait de la
peur. Ça paraît pas normal, tout ça. Mais...
Non, mais c'est ce que vous avez vécu. Et puis là, vous le racontez avec également le souvenir de l'enfant que vous avez été et puis de l'adolescente ensuite qui a grandi. Donc, ce sont vos mots à vous, c'est votre histoire. Donc, tout se faisait toujours dans ce que vous appelez, vous, cette douceur.
Oui.
Jamais forcée.
C'est-à-dire, ma mère ne nous aimait pas. Ouais, elle n'était pas faite pour être mère, sans doute. Une femme formidable, mais elle n'aimait pas ses enfants. Elle trouvait toujours les enfants des autres mieux. Le monde était mieux que nous.
Anne, elle vous l'a dit.
Quand quelqu'un nous disait... Lui disait, vous avez deux jolies petites filles.
Oui.
Elle disait, c'est pas la peine, on a des glaces à la maison. Donc, des miroirs à la maison. Donc, voilà, on a toujours entendu ça.
Est-ce que votre maman était douce avec vous?
Non, pas du tout.
Non.
Elle aussi avait des excuses. Elle a vécu des choses très dures. Hein.
Est-ce que votre sœur se doutait de quelque chose?
Elle a toujours dit que ce n'était pas vrai, ma soeur.
Ah, d'accord. Donc, à ce jour, elle réfute totalement. Oui, elle rejette l'idée. La réalité, elle la rejette.
Oui, totalement.
Ouais.
Le psychiatre m'avait aidé à lui faire une lettre pour lui expliquer. Et elle n'a jamais répondu. Là, j'ai perdu mon mari. Ça va faire 3 ans en décembre.
Ah, je suis désolée.
Et je lui avais envoyé un SMS parce qu'elle ne répondait pas au téléphone.
Oui. Et elle n'a pas répondu.
Et je lui ai demandé, j'ai envoyé un autre SMS en lui disant, mais tu as changé de numéro, je suis bien chez son nom. Et elle m'a envoyé, oui, mais je n'ai rien à faire, qui soit mort. Voilà, l'indifférence.
Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Je ne sais pas, ça m'a fait rire.
Ah oui, d'accord.
Je m'y attendais tellement, je savais tellement. J'ai tellement cherché son amour, on avait qu'à prendre des différences. Et j'ai tellement... Je pense que ça aurait dénoué les choses si elle avait été plus proche de moi.
Ça aurait dénoué quoi?
J'aurais pu lui dire à elle... Je l'adorais, ma soeur.
Ah oui.
Elle me rejetait, mais moi, je l'adorais. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que en 92, donc j'avais 38 ans, parce que j'ai 68 ans, il y a eu un drame dans la famille. Il y a mon cousin qui a tué ses 3 enfants et qui s'est suicidé après. Donc ma mère était très proche de ces petits-là, elle allait souvent au Pays Basque les voir et tout ça, et elle s'est effondrée. Et moi, j'ai soutenu tout le monde et je l'ai accompagnée à l'enterrement. J'ai été là pour ma cousine et à ce moment-là, j'étais un peu perdu. Bon, j'essayais d'aider tout le monde et puis j'étais un peu perdu. Et il y a quelqu'un dans... Parce qu'il y avait énormément de monde, c'était un drame, parce que les enfants avaient un an, 4 ans et 7 ans et demi. Donc, j'ai entendu dans l'assistance, je ne sais pas si c'est qui a dit ça, ton père qui met ses enfants et puis faire ça. Et je suis resté avec cette phrase, je suis retourné chez moi, j'ai laissé ma mère là-bas. Je suis retourné chez moi avec cette phrase sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Ah oui.
Je ne pouvais pas me débarrasser de cette phrase. Et c'est pour ça que je suis allé voir un psychiatre, à cause de cette phrase.
Ah, c'est, ça a été le déclencheur, d'accord.
Oui. Donc j'avais 38 ans.
Et vous
et
sentiez...
jusqu'à 38 ans,
oui.
Excusez-moi.
Non, non, je vous en prie. En fait, pendant 38 ans,
ouais.
Vous saviez que voilà, vous aviez vécu quelque chose, mais il y avait cette espèce d'amnésie traumatique qui faisait que vous n'arriviez pas à mettre, non. À verbaliser ce
moi,
que vous aviez.
Moi, je croyais que j'étais anormal quoi, au niveau sexuel.
Ah, c'était uniquement sur le plan
envie,
sexuel.
J'avais envie. Et dès qu'on me touchait, je...
Oui, c'était compliqué.
C'était compliqué.
Est-ce que...
Donc j'ai vécu 7 ans. Excusez-moi.
Non, non, je vous en prie, Anne. Les enfants qui subissent des traumatismes développent, une fois adultes, beaucoup de problèmes psychosomatiques. Donc on est très souvent malade, comme si en fait notre système immunitaire avait été également fragilisé. Est-ce
oui.
que jusqu'à l'âge de 38 ans, vous faisiez donc des maladies chroniques ou est-ce que vous-même, vous aviez développé de l'asthme ou une maladie qui pouvait être en lien ?
Non.
Non.
Après, mais jusqu'à l'âge de 38 ans.
D'accord.
Et beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai vécu 7 ans avec une personne et je suis parti. Je l'ai laissé alors que je l'aimais encore parce que voilà, je pensais que je ne pourrais pas avoir d'enfant, donc je ne voulais pas lui gâcher sa vie.
Oui. Et c'était vraiment irréversible, votre problème
Oui, je n'ai jamais été capable d'aller voir un gynécologue. Tout ça, mais non.
Vous n'êtes jamais allé voir un gynécologue à ce jour? D'accord.
Alors pour en revenir au rêve.
Bien sûr, oui.
En ce moment-là, bon, depuis très jeune, je fais des rêves. Bon, au moment où j'étais en analyse, en thérapie,
ah oui.
Ça a duré 12 ans. Le psychiatre parlait de rêve-réalité, c'est-à-dire je rêvais que j'étais allé chercher le courrier. C'était des trucs sans importance. Donc, après, je croyais l'avoir fait, donc je n'allais pas voir le courrier. C'était
ah
que
ouais.
des...
Un côté dissociatif.
Voilà, oui.
Ouais.
Et pour ma cousine, là, dont le mari a tué ses enfants.
Dramatique. Oui.
Oui, c'était dramatique. Pendant 3 ans, tous les ans, elle passait voir ma mère.
Oui.
Parce qu'elle faisait le... Elle habitait au Pays-Bas, et elle allait à 7. Et ma mère était sur le chemin à Toulouse, donc elle s'arrêtait avec son père, le frère de ma mère, que ma mère adorait, et son mari, ce mari-là, et ses 3 enfants. Et là, pendant 3 ans où j'habitais pas loin, les 3 étés, j'ai totalement refusé d'y aller.
Ah oui.
Et je savais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas, c'était impossible pour moi d'y aller. Et la première des choses qu'elle m'a dit, quand je suis allée avec ma mère à l'enterrement, elle m'a dit « Pourquoi tu as toujours refusé de voir mes enfants ?» Et ça, je ne sais pas non plus. Et ça fait partie de tous ces trucs bizarres qui se passent dans ma tête. Et que je ne sais pas.
Alors pour le moment, Anne, vous continuez à être accompagnée par un psychiatre ?
Non.
Non. Est-ce que vous
En 2000, je suis restée en thérapie avec des hospitalisations volontaires. mon accord et mon psy, il y en a eu trois.
Oui, trois, d'accord.
C'était pour me dé... pour partir de chez ma mère aussi. Il disait que je n'ai plus cette influence parce que ma mère ne nous a pas aimés, mais moi je l'ai aidée jusqu'au bout.
Oui, 2007, hein, vous nous avez dit qu'elle est décédée.
Oui, elle est décédée en 2007 et en 2004, je suis partie. On habitait, elle habitait en bas d'une maison, moi en haut, et je m'occupais d'elle. Et en 2004, j'ai rencontré Frédéric, non, j'arrive pas à dire mon mari. Et on est parti en Alsace. Et j'ai tout organisé autour de ma mère pour qu'elle, qu'elle ait des aides et tout ça. Et on descendait trois fois par, par an la voir. Et là, en ce moment, je me dis à deux trucs. En ce moment, je fais des cauchemars où je revis tout, toutes les phrases de mon père, tous les, tous les gestes de mon père. Et le 25, je dois être opéré de l'œil, une cataracte. Bon. Et ils veulent me faire, parce que j'ai beaucoup de pathologies, l'anesthésiste veut me faire une anesthésie totale pour m'opérer. On peut le faire en local ou en total. Et j'ai peur de cette anesthésie, de dormir. De toute façon, j'ai peur de dormir. Je peux dormir très, très peu. Ce qui me rend malade au niveau du diabète. Vous savez, il y a tout ce qui se déstabilise.
Parce que
j'ai peur de
ces
rêves et j'ai peur de l'anesthésie. De rêver à ça pendant l'anesthésie.
Ah, bon, une anesthésie, le sommeil n'est pas le même que celui qui est réparateur, ou en tout cas celui que le lambda. Donc, on se fait anesthésie, puis on se réveille et on ne se rappelle, on ne se souvient de strictement rien du tout. Alors, ce qui peut être très intéressant pour vous, Anne, c'est là, comme ça, quand je vous entends, je pense à l'hypnose. Je pense à l'hypnose pour vous, à la fois parce que cette boîte de Pandore a été ouverte et qu'il y a encore pas mal de choses qui semblent vouloir s'exprimer. Donc l'hypnose peut vous aider aujourd'hui à continuer à cheminer pour vous sentir mieux. Je pense qu'effectivement, revoir un psy, ça peut être une bonne chose également pour vous. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'hypnose ou par le psy? Là, c'est vous et comment est-ce que vous voulez cheminer? Parce que parfois, ça peut être un peu trop également sur l'aspect émotionnel. Il ne faut pas trop non plus charger à chercher absolument, absolument, absolument. Donc, il faut aussi laisser son esprit, j'ai envie de dire, se reposer. Donc, l'hypnose peut vraiment vous aider, peut avoir un effet cathartique pour vous. Continuez à voir un psy parce que je sais que vous avez des phases un peu de creux.
Oui, là, je suis en dépression. Oui,
en phase dépressive en ce moment. Donc, c'est en fait, en même temps, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous avez donné du sens à votre vie sur les projections des années à venir?
L'an dernier, quand j'ai téléphoné à Olivier Delacroix, j'avais des pulsions suicidaires très très violentes et je voulais vraiment finir, c'était vraiment... Et là, je remonte un petit peu.
Oui.
Même si j'arrive pas à faire mon deuil totalement, mais j'ai progressé là-dessus.
Vous n'arrivez pas
et
à
je
faire...
voudrais essayer de...
Vous
mais je
pas
suis
à
un peu coincé.
Deuil.
Non, j'y arrive pas, non.
Deuil de qui?
À cause de lui.
Le deuil de qui, Anne?
De mon mari.
De votre
de
mari.
Frédéric.
D'accord. Qui est parti il y a 3 ans.
Oui. 3 ans en décembre.
D'accord. L'hypnose, vraiment, ça peut vraiment vous aider. Le MDR également. Je pense que je sais que vous êtes une auditrice, une fidèle auditrice, donc j'ai presque envie de vous dire que j'ai rien à vous apprendre de plus que ce que vous n'avez déjà entendu par rapport à tous ces témoignages de traumatismes vécus. Donc il y a plusieurs solutions possibles. Maintenant, comment est-ce que je peux vous aider à mettre en action tout cela, à vous mettre vraiment en marche sur votre épanouissement et le fait que vous avez le droit d'être heureuse et de goûter au bonheur. Parce que vous y avez le droit, oui. Anne.
Oui, mais c'est-à-dire d'abord, il faut que je fasse cette opération des deux yeux, là,
très
que
bien.
Je puisse conduire pratiquement, que je puisse conduire de nouveau pour aller. Là, je suis dans un petit village, que je puisse conduire de nouveau pour aller voir un hypnothérapeute ou un psy.
Qu'est-ce qui vous ressource, Anne? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans la vie?
Mes animaux.
Vos animaux?
Ouais.
Est-ce qu'il vous arrive de vous balader un petit peu?
Non, j'ai des problèmes. Là. J'ai un nombre de pathologies assez, attention, assez vertigineuses. Donc j'ai une polyarthrite rhumatoïde et deux prothèses de hanche. Donc j'ai du mal à marcher.
Parce que j'étais en train de me dire que quand on broie du noir, c'est intéressant de se mettre au vert.
Donc de... Oui, en plus je suis entouré de forêts. Là. Voilà. Et avec Frédéric, avec mon mari,
ouais.
On allait souvent se promener. Bon, avec lui. J'avais une canne et puis j'arrive à marcher avec une canne.
Oui.
Et toucher les arbres, et... voilà. C'est aussi, ça m'a fait bien.
Oui.
Quand je me mets à l'entrée d'une forêt, je marche un peu et là, il faut que je récupère au niveau de la vue.
Mmh. Et après.
Et puis, il y a mes animaux.
Oui.
Donc, j'avais fait une grosse bêtise. Juste avant d'appeler Olivier, j'avais donné la moitié des somnifères à mon chien et j'avais pris l'autre moitié.
Ah oui.
Et voilà, et ensemble, on est sortis tous les deux.
D'accord.
Et passé. Parce que mon chien aussi a des problèmes.
Ah oui, qu'est-ce qu'il a comme problème, votre chien?
Mais depuis le décès.
Ah, il déprime.
Ouais.
Ouais.
Là, tout à l'heure, quand le téléphone a sonné, il s'est mis à aboyer. Je ne sais pas si Adrien ou Bastien l'ont entendu. Il a aboyé comme un fou. Et là, il aboie tout le temps, de toute façon. Si je dors et qu'il s'inquiète, il aboie. Si je pleure, il aboie. S'il sent que j'angoisse, il aboie.
Ah oui.
Si je suis dans une autre pièce, il aboie. Là, il s'est calmé.
Vous avez un chien hypersensible alors. C'est une éponge.
Oui, ouais. Comme moi. Ouais.
Vous êtes en connexion tous les deux.
Oui.
Après cette opération, si on fait un peu de projection pour rester dans quelque chose de réaliste et positif, qu'est-ce que vous voulez faire, Anne?
Au final, je veux retourner dans le sud.
Ah oui? Ah, très bien. Et vous avez une idée de l'endroit où...
Mon rêve, ça, c'est le Pays Basque.
Ah.
Malgré ce qui est passé. Parce que l'océan me calme énormément.
Mm.
Je suis très... océan, montagne, arbre.
Oui.
Se mettre au vert, comme je vous disais tout à l'heure.
Est-ce que vous avez des amis?
J'avais des amis et ça s'est mal passé après le décès de Frédéric. Donc, ils m'ont laissé tomber et là, je reviens petit à petit vers eux.
D'accord.
Pour essayer de faire un trait sur les deux ans, là, et de... Parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'explique, donc... ils me demandent de faire un trait et de repartir. C'est pas facile.
Oui.
Parce qu'ils ont dit des choses atroces. Et ça faisait 40 ans qu'on se connaissait. Donc... c'est difficile, ça a été un deuil aussi.
Mais ils sont là. Et vous les recontactez?
Oui, je les ai recontactés.
Ouais, c'est très positif.
Oui, j'essaye de m'en sortir.
Oui, c'est bien, c'est une bonne chose.
En tout cas,
vous mobilisez l'énergie pour, hein, c'est admirable.
Ouais. Mais le problème, c'est que je dors très, 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 très peu parce que j'ai peur encore de rêver ça.
C'est
au début, je rêvais que Frédéric me disait, mon mari, me disait, là, fais attention à ça, il faut que tu ailles voir un tel. Je me réveillais, j'étais heureuse comme si je lui avais parlé. Quoi. Donc, j'étais heureuse de dormir. Et là, depuis 2 mois, c'est sans arrêt les trucs de mon père.
Est-ce que
et
vous
donc, j'ai peur de dormir, donc je fais tout pour pas dormir.
Et pourtant,
entre
attention.
Entre le café, cigarette.
Ouais, ouais. Mais si je vous dis que c'est important de dormir, je pense que vous le savez.
Je sais, ouais.
Et oui. Surtout pour votre système immunitaire, c'est extrêmement important de dormir.
Et pour le diabète aussi.
Pour votre diabète, pour le stress, pour... Eh oui, parce que plus vous fragilisez votre organisme et plus vous allez faire des cauchemars également. Alors, je le dis très souvent, en fait, le sommeil, c'est vraiment la base. C'est la base parce que c'est ce qui nous permet également de savoir si on va bien ou pas. Quand on broie du noir, c'est que forcément, et très souvent, on est fatigué. Donc c'est un indicateur, c'est un signe également très clair du cerveau pour dire « stop, j'ai besoin de dormir ». Quand on est en forme, on va vraiment avoir un prisme plutôt positif. Donc le cerveau, en fait, il ne peut pas emmagasiner le positif et le négatif. Donc quand il est en forme et quand vous êtes en forme, en fait, vous allez stocker du positif et quand vous êtes fatigué, vous non seulement stockez le négatif, mais en plus, vous restez dans cette ambiance, dans cet esprit, dans ces pensées, le schéma vraiment qui va être négatif. Et donc ça amène très rapidement au spleen, au mal-être, donc à la déprime, à la dépression. Il faut faire très attention. Forcément, je vais vous dire, Anne, dormez.
Oui, je sais. Avant, je faisais de la... Sabine en avait parlé une fois de la cohérence cardiaque.
Absolument. De la cohérence.
Et ça arrivait à me calmer. Et maintenant, ça ne me fait plus rien, mais je ne le fais pas régulièrement. Il faudrait que je me remette à le faire régulièrement.
L'été dernier, Anne, je suis passée par une phase très difficile. J'étais dans la souffrance. Je n'étais pas malade, mais je souffrais terriblement. Et donc, j'essayais de trouver des parades, des solutions pour atténuer cette douleur. Vraiment, j'ai passé 2 mois à avoir extrêmement mal. C'était l'été dernier. Au-delà de la morphine, même parfois la morphine ne suffisait pas. Et en fait, j'ai découvert le CBD. Et puis, j'ai découvert autre chose qui est l'ASMR. Donc vous avez la cohérence cardiaque qui effectivement permet de trouver le sommeil et l'ASMR, donc je mettais mes écouteurs et j'écoutais donc ces voix qui chuchotaient comme ça. Et en fait quand vous chuchotez, ben en fait ça fait du bien, mine de rien. Ben c'est pas mal du tout pour dormir, ça s'appelle l'ASMR. ASMR. C'est des voix comme ça et ça chuchote. Vous allez vraiment ça, c'est, et je m'endormais comme ça. C'est, et il y a plusieurs thématiques, hein, donc pour trouver le sommeil, pour retirer, pour atténuer les douleurs, etc. Et ça, en tout cas sur moi, ça a marché. Et comme vous êtes une hypersensible, Anne, eh bien ça peut très bien marcher sur vous également. A S M R.
ASMR.
Oui, et ce sont des voix qui sont chuchotées, des phrases qui sont chuchotées comme ça et qui permettent vraiment de s'endormir et de trouver un peu de sérénité.
Je vous remercie.
Mais je vous en prie, Anne. Je penserai à vous le 25 août. Je vous enverrai un petit message pour savoir si tout s'est bien passé.
Je vous remercie. Merci. Ça m'a fait énormément de bien de vous parler.
Eh bien, j'étais en tout cas ravie de vous avoir... également en direct avec nous. Et je vous souhaite beaucoup de courage, Anne, pour la suite. Et puis, on reste
merci.
En contact.
Bon.
Je me permets de vous embrasser. Merci, Anne. Au revoir.
Moi aussi, je vous embrasse. Ça va. Au revoir.
Au revoir. Il y a de la place au standard du 3921 si vous souhaitez passer en direct comme Anne ou comme Benoît. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive Benoît ?
Bah écoutez, je me sens pas très bien dans ma peau.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ben en fait, voilà, je vous explique. Ben déjà, je suis homosexuel et ben ça va faire un an le mois prochain. J'avais rencontré quelqu'un par le biais d'une application. Mmh. Et donc au début, on s'est vu quelques fois et donc on s'est plu tous les deux. On avait commencé à se mettre en couple.
En couple, oui.
Et en fait, j'ai fait un peu une bêtise parce que moi actuellement j'habite Nancy, mais avant j'habitais dans les Ardennes. Et à ce moment-là que j'ai rencontré mon ex, j'habitais encore chez mes parents dans les Ardennes.
D'accord.
Et en fait, ce qui a coincé, c'est au niveau de la distance. Parce que moi, en fait, je me suis installé après à Nancy pour le rejoindre, on va dire.
Oui.
Et en fait, ça lui a pas forcément tellement plu. Parce que une fois, il avait envie de me voir et puis je lui avais dit que j'étais sur Nancy, mais que en fait, j'étais encore chez mes parents. Et donc, du coup, en fait, lui, il l'a pris comme une, on va dire, entre guillemets, comme une trahison, quoi. Parce que, bon, en fait, c'est vrai que ça ne se fait pas de mentir, mais ce jour-là, en fait, je ne savais pas quoi faire pour essayer de... d'arranger les choses, parce que lui, il avait peur qu'au niveau de la distance, que ça aurait créé un frein et que éventuellement que ça n'aurait pas pu marcher entre nous deux.
Alors, Benoît, c'est pas très clair. En tout cas, moi, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Donc, je vais vous poser des questions de façon à orienter un petit peu plus. Alors, vous avez rencontré ce jeune homme il y a un an sur une application, c'est ça ?
Oui. Okay. C'est ça, oui.
D'accord, parce que je prends des notes en même temps, c'est pour ça. Bon, donc vous habitiez chez vos parents dans les Ardennes.
C'est ça, oui.
Et lui habite Nancy.
Oui.
Bon, donc vous avez fréquenté ce jeune homme pendant combien de temps avant de vous installer à Nancy ?
Bon, on s'est fréquenté pendant à peu près 2 mois, on se voyait chaque week-end.
Voilà, donc... Il venait chez vous ou est-ce que c'est vous qui alliez chez lui ?
C'est toujours moi qui faisais le déplacement.
D'accord, donc c'est vous qui vous déplaciez. Très bien. Ça se passait bien ?
Écoutez, oui, au début tout se passait bien. On passait toujours les week-ends ensemble. Oui. Il n'y avait aucun souci.
D'accord. Vous aviez commencé à projeter ensemble, je dis bien ensemble, des choses telles que peut-être des vacances ou... Est-ce que vous parliez d'avenir ?
On avait éventuellement... Lui m'avait déjà présenté à ses amis. Mmh. Et moi, j'avais discuté avec lui pour éventuellement que je puisse le présenter à mes parents.
D'accord. Donc, il y avait une officialisation, en tout cas, de votre couple.
Oui.
Ok. Je vous pose toutes ces petites questions et puis il va y avoir le journal hein, bientôt, parce que je vois Wilfried arriver. Donc, on fera le journal et puis ensuite, on se retrouvera tous les deux, hein, je vous rassure. D'accord ? Donc là, on pose le cadre tous les deux pour que ce soit encore plus clair pour moi, pour pouvoir vous aider ensuite. Donc,
d'accord.
Officialisation des amis du côté de Nancy et puis vous, éventuellement, également, officialisation chez vos parents du côté des Ardennes. Jusque-là, ça va ?
C'est ça, oui.
Ok. Ensuite, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit « Allez, je le rejoins sur Nancy ?»
Et en fait, c'est parce qu'une fois, parce qu'avec une certaine application de réseaux sociaux, on peut suivre la localisation.
Ok. Alors, on se retrouve juste après Super Suspense pour la suite. D'accord ?
D'accord, pas de souci.
Merci Benoît. À tout de suite sur Europe 1.
La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Retrouvons Benoît. Benoît qui a démarré l'entretien en nous disant je me sens pas bien, j'ai un sentiment de mal-être. En couple, enfin en tout cas non, plus en couple, hein, puisque vous nous avez dit mon ex, on a hâte de savoir ce qui s'est passé. Donc vous étiez en train de nous expliquer que vous avez rencontré il y a un an donc, un homme sur une application de rencontre, vous étant en Ardennes, lui sur Nancy, vous avez fréquenté cette personne pendant 2 mois, à faire plutôt vous des déplacements pour aller le rejoindre. Officialisation auprès des amis, vous, est-ce que Benoît, vous l'avez présenté à vos parents ou pas?
Mais en fait, j'ai failli le présenter à mes parents, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait.
D'accord. Donc, vous étiez en train de nous dire, juste avant le flash info de Wilfried de Villers, que un week-end, vous êtes allé sur une application qui localise, géolocalise les personnes, c'est ça?
Bon, en fait, enfin, autant que je dise le nom des réseaux sociaux, parce qu'en fait, avec Snapchat, voilà, on peut voir les contacts, on peut les voir en localisation, on peut voir où ils sont dans un rayon assez précis, quoi. Et une fois, mon ex-copain voulait me voir et me dit, écoute, je voudrais te voir une heure, est-ce que ce serait possible? Et moi, je lui ai dit oui. Mais en fait, je lui avais pas dit que j'étais en fait encore dans les Ardennes. Et quelques minutes après, il m'a appelé et il m'a dit oui, tu m'as menti. J'ai vu qu'en fait que tu étais encore chez tes parents. Tu m'as menti. Tu m'avais dit que tu étais à Nancy, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il a pris ça en fait pour une trahison. Et donc du coup, qui fait qu'en fait que ça a cassé, parce qu'il pensait aussi bien que je l'avais éventuellement trompé, alors que ça n'était pas du tout le cas. Et donc du coup, c'est pour ça que ça a cassé du jour au lendemain entre nous deux, quoi. Parce que moi, j'étais un peu coincé, parce que je m'étais dit, oui, mais si je lui ai dit que j'étais chez mes parents, peut-être qu'il serait dit, ouais, mais finalement, au niveau de la distance, il faudrait mieux qu'on arrête, parce que la distance, peut-être que ça lui faisait peur. Mmh. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai fait la grosse bêtise de lui avoir menti. Et ce qui fait que lui n'a pas du tout apprécié, quoi.
Bon, alors forcément, j'ai envie de vous dire qu'il y a des mensonges bien plus graves que celui qui est presque un mensonge par omission. Est-ce que vous sentiez qu'il y avait quand même autre chose que cet épisode? Parce que ça paraît surprenant quand même de que ça prenne une telle ampleur juste parce que vous étiez encore chez vos parents, alors que vous deviez... Que vous en pensez, vous?
C'est vrai que même moi, j'ai été très, très surpris. À la limite, qu'il m'aurait encore un peu fait la tête pendant quelques jours, j'aurais compris. À la limite, voilà, là, j'aurais compris. Mais là, de voir carrément... d'avoir carrément cassé la relation pour ça, j'ai été très... Ça m'a fait très, très, très mal au cœur, quoi.
Je comprends. Et manifestement, c'est toujours le cas. Puisque vous nous avez dit, je me sens... Enfin, j'ai un mal-être.
Même pour vous dire que je n'ai jamais essayé de recommencer éventuellement une nouvelle relation avec un autre garçon. Parce qu'en fait, je ne pense qu'à lui, quoi. C'est vraiment lui qui me plaît. C'est vraiment lui avec qui... J'ai eu un coup de foudre pour cette personne
Elle date de quand, la rupture?
En fait, elle date de début novembre. Et il faut savoir qu'il m'a déjà relancé 2 fois.
Oui.
Et à chaque fois, on discute pendant une dizaine de jours, on reprend contact, tout va bien. Et à chaque fois, il croit que je lui mens sur le fait que je ne suis pas à Nancy, alors qu'en fait, j'habite maintenant vraiment Nancy et en fait, il ne me croit pas du tout. En fait, c'est deux fois de suite à chaque fois, pendant quelques jours, on s'en reparle bien et puis au final, ça casse quoi. Alors que je sais qu'au fond de lui, même lui, il ressent quelque chose pour moi, mais il n'ose pas le dire. Peut-être parce qu'il a un manque de confiance en lui ou.
Alors, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, pour reconquérir cet homme, vous vous êtes installé sur Nancy?
Oui.
Ah bah, faut aller jusqu'au bout. Faut aller jusqu'au bout du projet. Si vraiment il n'y a que lui en tête, ne lâchez rien pour le moment. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous vous disiez à un moment donné, bon, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Maintenant, je suis fatiguée. Il y a quelque chose qui manque encore dans cette reconquête, c'est le fait de ne pas l'avoir vu. La rencontre, vous êtes resté juste sur du virtuel pendant 2 fois 10 jours, donc 20 jours, à vous parler, mais vous n'avez rien initié?
Plusieurs fois je lui avais proposé, mais lui n'était pas très, on va dire, très d'accord pour l'instant.
Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous donne comme excuse ou comme prétexte?
Parce qu'à chaque fois il me dit, oui, mais de toute façon, je sais que tu es pas à Nancy, mais je lui ai dit, si, je lui ai déjà montré, aussi bien que ce soit des papiers, que ce soit tout, pour lui montrer vraiment comme quoi que j'habite vraiment bien à Nancy. J'ai déjà montré toutes les preuves inimaginées, enfin qu'on peut prouver quoi.
Ouais. Alors, il y a peut-être un autre sentiment aussi qui fait que vous pensez à cette personne, c'est peut-être ce sentiment d'injustice. Le fait de lui montrer par des choses clairement factuelles que vous habitez bien, que vous êtes bien installé sur Nancy, eh bien ça, en fait, c'est peut-être aussi pour cette raison que vous pensez constamment à lui. Donc finalement, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est un sentiment d'injustice si c'est vous qui avez la réponse?
Je pense que c'est plutôt plus un sentiment d'amour parce que je suis vraiment attaché à lui. Je vois parce que même lui ne m'a pas supprimé de différents réseaux sociaux parce qu'il aurait très bien pu me supprimer du jour au lendemain.
Comment qualifiez-vous son comportement, Benoît? Comment l'analysez-vous?
Moi, je pense que cette personne, a un manque de confiance en lui.
Uniquement?
Je pense, ou peut-être qu'il a peur.
Comment
Il a
vous
peut-être.
expliquez qu'il vous relance 2 fois et que malgré toutes les preuves que vous lui présentiez, il vous dise stop?
Moi, je pense qu'il veut réessayer quelque chose, mais qu'à chaque fois, il a peut-être un blocage ou des doutes.
Alors, est-ce que vous lui avez demandé de quoi il a besoin pour remettre en place la relation de confiance? Est-ce que vous lui avez posé clairement cette question? De quoi as-tu besoin pour me croire?
Non, c'est vrai que j'ai jamais vraiment posé la question.
D'accord. Alors, cette question, elle va être primordiale. De quoi as-tu besoin pour me croire? Ça va vous permettre certainement d'ouvrir une fenêtre sur la véritable nature de la relation, ou en tout cas, quelle place vous avez ou que vous pourriez avoir dans sa vie. Parce que là, c'est très flou. Le comportement est très bizarre. Vous avez beau démontrer que, en face, ça ne prend pas. Donc, de quoi a-t-il besoin?
Puis c'est vrai que dans son comportement, c'est quand même assez bizarre parce que, comme je vous ai dit, il m'a jamais supprimé d'aucun réseau social parce qu'il aurait très bien pu,
Ah
du
oui,
jour au lendemain,
vous
me couper les
ghostez.
contacts.
Ben oui.
Et en fait, il ne l'a jamais fait. C'est ça que
Qui
même
vous
ça m'a un peu.
déstabilise? Oui.
Ben, c'est même ça qui m'a étonné parce que je me dis que finalement, je pense qu'il ressent quelque chose pour moi encore et qu'il ne soit qu'il n'ose pas le dire ou.
Alors, est-ce qu'il voit, il a accès à vos différents comptes, donc il voit vos photos?
Oui.
Ben forcément, je me dis, moi je fais un direct. Je fais des directs tous les jours que je poste. Voilà, je suis là. Des photos pour attester. Ben oui, parce qu'il ne vous croit pas.
Oui.
Ben ouais.
Et ben pourtant, c'est ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà fait ça et je sais pas, c'est bizarre parce qu'il ne me croit pas, mais je lui dis, écoute, une fois que je lui dis qu'est-ce qui est tout vraiment pour que tu me crois.
C'est exactement ça. Vraiment, posez-lui la question, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin pour me croire? Et est-ce que véritablement, il a envie, est-ce que tu veux ou pas, qu'on reprenne, ne serait-ce que, voilà, qu'on se revoie? Parce que de quoi a-t-il besoin? Ok, mais vous, vous en avez aussi besoin. Et surtout envie, manifestement. C'est important pour vous, Benoît, parce que là, en fait, vous nous avez verbalisé, vous avez exprimé clairement votre mal-être. Donc, on est d'accord que il n'y a rien de constructif, il n'y a rien de positif à être dans cet état. À quoi ça vous sert, clairement, d'être mal aujourd'hui?
Bah, ça me fait plutôt plus du ça me fait plutôt plus du mal qu'autre chose, quoi.
D'accord. Donc, pour quelle raison est-ce que vous acceptez d'être comme ça?
Parce que je me dis que finalement il y a peut-être un espoir pour qu'il soit qu'on reprenne contact comme il a déjà fait deux fois. Généralement, on dit jamais 203.
Oui.
Et je me dis peut-être que il voudra peut-être vouloir reprendre contact avec moi et puis que
Vous vous êtes rencontrés quel jour? Vous avez la date?
Alors c'était le jeu mercredi 9 septembre.
Effectivement, c'est précis. Un mercredi 9 septembre. Ça tombe bien, nous approchons le mois de septembre. Ce qui va être très important pour vous, c'est vraiment de marquer le moment où vous pouvez vous dire stop. J'arrête d'être dans cet état-là. Donc, soit vous vous donnez la date du 9 septembre, soit éventuellement vous vous donnez la date de votre rupture, c'est-à-dire novembre. Mais Benoît, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas rester comme ça.
Mais je sais pas quoi faire pour arrêter d'y penser. J'ai déjà je sais pas, franchement,
Vous le sentirez. Là, pour le moment, vous êtes encore nourri d'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc, vous alimentez tout cela parce que ça vous apporte quelque chose, parce que vous avez besoin aussi de réponses, hein. Il y a beaucoup de mystères autour de cela. Il y a beaucoup de mystères autour de cette histoire. Et si vous êtes quelqu'un qui est plutôt tourné vers le concret, eh ben forcément, vous avez, et l'analyse, hein, vous avez besoin de réponses. Donc, tant que vous n'aurez pas ces réponses, mais forcément, ça va, vous allez ruminer. Donc, à un moment donné, il faut vraiment sortir de ce rond-point. Là, vous êtes sur un rond-point sans voir les panneaux de sortie. Donc, un des panneaux peut être le 9 septembre, ou alors vous vous donnez encore un peu plus de temps jusqu'à novembre, et ça fera quand même déjà un an. Après, je le dis tout le temps, Benoît, la suite vous appartient. Vous avez conscience de beaucoup de choses. Maintenant, c'est votre choix, hein, forcément. Mais si vous m'appelez ce soir, c'est que vous recherchez des réponses. Et c'est plutôt une bonne chose, c'est que vous avez envie de vous en sortir. Donc on garde cette dynamique, on mobilise de l'énergie, soit ça passe, soit ça casse. Mais vous n'avez pas le droit de vous punir comme ça. Vous avez le droit au bonheur. Si c'est avec lui, eh ben, tant mieux. Donc foncez. Et puis s'il vous met un stop, eh bien, il y a forcément quelqu'un qui vous attend. Et de mieux, qui saura reconnaître la personne que vous êtes. La belle personne que vous êtes. En tout cas, beaucoup de romantisme hein, chez vous, Benoît.
Merci. Non, c'est vrai que je me fais du mal. Et c'est surtout le soir que j'y pense. Et des fois, ça m'arrive même de pleurer comme ça, sans raison. Je me dis, je me suis quand même installé à Nancy. J'ai quand même quitté mes parents, ma famille, mes amis pour essayer de le rejoindre et puis pour essayer de recommencer quelque chose.
Mais vous avez eu raison de le faire. Vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous voulez. Donc ça, on ne refait pas l'histoire, hein, d'accord ? Vous êtes comme ça. Vous êtes quelqu'un d'entier. Quand vous aimez, vous aimez. Ce n'est pas du tiède. Hein. Alors là, pour le coup, ce n'est pas tiède. Donc vraiment, ne balayez pas d'un revers de manche ce que vous êtes. Assumez justement tout cela. Allez jusqu'au bout, mais en revanche, mettez bien une date, marquez une date où à ce moment-là, vous vous dites « stop ». Ok.
Peut-être que c'est peut-être moi qui devrais peut-être reprendre contact avec lui. Puis...
Évidemment. Là, oui, reprenez contact. Dites-lui clairement que vous voulez le voir et que c'est vraiment... que la situation est ridicule, enfin il y a que votre histoire n'est pas terminée, il y a un goût d'inachevé au contraire. Je suis sûre que vous trouverez les mots.
Ouais.
Mais ce qui va être important, c'est vraiment de retrouver ce contact physique. Vous devez vous revoir. Voilà Benoît, j'espère en tout cas que cet échange vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et de vous sentir surtout mieux, déjà.
C'est vrai que ça fait déjà du bien de vider son sac quand même, parce que ça fait du bien de se sentir écouté, de que vous puissiez m'aider, et franchement, ça me fait énormément de bien.
C'est normal. C'est vous qui avez pris l'initiative d'appeler. Donc vraiment, merci pour votre témoignage. Merci pour votre courage. Et j'espère, Benoît, je ne sais pas quelle issue cette histoire aura, mais moi, le plus important pour moi, c'est que vous alliez bien. Et que voilà, vous soyez accompli dans ce que vous avez envie de faire.
D'accord.
Donnez-nous de vos nouvelles, d'accord ?
Et bon
courage.
Écoutez, je vous remercie.
Je vous en prie, Benoît. Au revoir.
Au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 739-21. 75 centimes plus coût du SMS.
Accueillons tout de suite Marie-Ange. Bonsoir, Marie-Ange.
Bonsoir, Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Oui, merci.
Qu'est-ce qui vous arrive, Marie-Ange ?
Je disais à votre collègue là, que mon mari est en suivi soignant depuis 3 ans, puis d'un seul coup, ça s'est arrêté, parce qu'il est de maltraitance.
Alors, il était suivi soignant, et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté pour quelle raison ?
D'un seul coup, parce que on m'accuse de maltraitance.
On vous accuse, vous, de maltraitance ?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé, concrètement ?
Dès le début, l'infirmière me disait... En plus, il faut que je fasse attention de ne pas citer des noms, je crois.
Oui.
On est là pour vous aider, pour le maintien au domicile le plus longtemps possible, voir ce que vous ne pouvez pas voir, pour éviter les problèmes. Et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté parce que maltraitance. Et donc nous, on était en confiance, on ne s'attendait pas à ce que tout s'arrête d'un seul coup et subir la double peine, la maladie, puis le rapport d'accusation, maltraitance,
ah,
qui fait beaucoup de
mal.
Qui fait beaucoup de dégâts, en fait. C'est pire que la maladie.
Marie-Ange, vous acceptez que je vous pose des questions pour comprendre exactement ce qui s'est passé, votre histoire ? Vous acceptez ?
Oui.
Oui ?
Alors, oui.
Marie-Ange, vous êtes mariée depuis combien d'années ?
Oh. Ça doit faire 40 ans.
40 ans, je crois. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre mari ? Qu'a-t-il eu ?
On l'a retrouvé dans la rue, un malaise, quoi.
Il a fait un malaise ?
Oui.
D'accord. Transporté à l'hôpital ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on lui diagnostique, alors, à ce moment-là ?
Aux urgences. Donc, il a un peu traîné dans les urgences.
Oui.
Et on l'a envoyé dans un hôpital spécialisé, là, Alzheimer. Il a fait un petit AVC dans la rue.
D'accord.
En allant chez le coiffeur pour les fêtes de Noël.
C'était quand ?
C'était il y a 3 ans.
Il y a 3 ans. D'accord. Donc, il fait ce séjour dans cet institut spécialisé Alzheimer.
Oui.
On lui diagnostique donc un AVC.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il sorte de cette institution, de cet institut ?
Ben, il est passé quelques mois et puis il a eu droit à son retour à la maison.
Est-ce que c'est lui qui l'a demandé ? Est-ce que c'est vous ?
Oh non, c'est le docteur.
C'est le médecin. D'accord. Donc, hospitalisé, enfin, en tout cas, soins à domicile.
Oui.
Et c'est vous qui prenez en charge donc, les soins de votre époux ?
Non, non, il a du personnel soignant.
D'accord.
C'était prévu même avant le retour, quoi.
Donc depuis 3 ans, quelqu'un vient le soigner, vient le nettoyer.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez accusé de maltraitance vis-à-vis de votre mari, sur votre mari ?
Donc, l'idée a porté plainte à son médecin traitant.
Qui a porté plainte ?
L'infirmière.
Ah, c'est l'infirmière qui a porté plainte ? D'accord.
Oui. À son médecin traitant. Je fais attention de ne pas citer les noms, c'est pour ça que je suis un peu... Alors, et pour soutenir, booster le rapport d'accusation maltraitance de l'infirmière, son médecin traitant a dû écrire un courrier au docteur de l'hôpital et qui me lit « Madame Levrino me dit qu'elle ne veut plus garder son mari au domicile, il demande son placement. »
Est-ce que c'était le cas ?
Non.
Non.
Non, parce que... en mon nom, sans mon avis, dans mon dos,
d'accord.
On n'en a jamais parlé.
Vous nous avez dit tout à l'heure, nous, on était en confiance. Nous, c'est qui ?
Moi et mon mari à la maison.
D'accord. Votre mari, comment va-t-il ?
Bon.
Est-ce qu'il est conscient ? Est-ce que...
Oui, il est conscient.
D'accord. Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe ?
Ben, j'ose pas trop lui dire parce que...
Oui.
Ouais.
Pour quelle raison ? Vous avez...
Que j'ose pas trop lui dire ?
Oui, pour quelle raison vous n'osez pas trop lui dire, Marie-Ange ? Vous avez peur, vous avez
peur de sa réaction? Vous avez ou vous vous dites que ça ne sert à rien?
Non, je disais que je pouvais régler ça sans.
Sans lui?
Sans lui faire cette peine, quoi. Que...
Ouais, je comprends.
Voilà. Je voulais d'abord essayer de régler moi-même et voilà.
Cette plainte a été déposée quand?
Ben, il y a, je ne sais plus, quelques mois.
Quelques mois. Et suite à la plainte, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Je me dis, moi, si c'était honnête, eh ben, ils auraient mis à leur nom avec honneur, alors que là, ils ont fait en mon nom, dans mon dos, sans mon avis. Puis, il m'a demandé de prendre un rendez-vous avec l'hôpital.
D'accord. Et est-ce que vous êtes renseigné sur... juridiquement, comment est-ce que vous allez pouvoir vous défendre, tout simplement?
Non, pas encore.
Pas encore.
Justement, je voulais passer par vous pour avoir...
Pour avoir des conseils.
Voilà.
Alors, ce sont surtout...
Et...
Oui, si les auditeurs peuvent vous aider, vous orienter, vous conseiller. Alors, l'une des premières choses que vous pouvez faire... si vous n'avez pas les moyens, les ressources financières pour pouvoir prendre un avocat,
oui.
C'est déjà d'aller à la mairie et de demander une aide juridictionnelle.
Oui.
Ça, c'est déjà une des premières choses.
Mais ça, c'est bien déjà.
Peut-être une assistante sociale également qui peut vous aider.
Oui.
Parce que, est-ce qu'on vous a dit quelles sont les conséquences de ce qui peut arriver suite à cette plainte? Est-ce que vous savez ce qui peut arriver?
Il y en a des conséquences déjà.
Ben déjà morale, hein, parce que...
Oui, morale, et oui. Voilà. Donc le docteur m'avait dit de prendre un rendez-vous avec l'hôpital. Et... Il a commandé son ambulancier pour voir, pour être sûr qu'on arrive bien à l'hôpital. Mmh. Et on s'est retrouvés piégés, bloqués pendant 6 mois, là, ces derniers mois, 6 mois.
Bloqué par quoi, Marie-Ange?
Ben, on demandait le retour. Normalement, on disait que c'était pour un contrôle et un retour et... Donc, on est resté bloqué 6 mois.
Alors, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque? Votre époux, il est avec vous?
Non, il était à l'hôpital.
D'accord. Donc, en fait, vous essayez de récupérer votre époux, mais...
Oui.
Voilà.
Puisque il dit, Madame Levrimeau me dit qu'elle ne veut plus garder son mari, alors que ce n'est pas vrai.
Alors
donc,
que ce n'est pas vrai, d'accord. Ok.
Donc, j'ai essayé de tout faire pour récupérer. Pour qu'il revienne. Voilà.
Je comprends mieux. Bon, donc, on fait appel à nos auditeurs pour vous aider, s'ils ont des conseils, effectivement. Si eux-mêmes, pour certains, sont passés par cette situation d'une plainte pour maltraitance, alors que c'est pas du tout... c'est pas le cas, hein, clairement.
C'est pas le cas.
Ben oui.
Oui, comment on fait dans ces conditions?
Eh bien sûr. Et puis surtout, oui. Comment est-ce que vous allez pouvoir récupérer votre époux? Donc lui.
Mais attendez, c'est déjà en cours la suite, là, si je peux vous le lire.
Ah, mais bien sûr.
Vous le dire. Donc après une semaine, le docteur de l'hôpital contacte ce médecin traitant. Il faut attention que je ne dise pas les noms. Pour lui dire que le contrôle est fait pour les blessures, les scars résorbés. Il mange bien, il dort bien pour son retour sans placement. Et le docteur et l'IDE ont refusé, l'infirmière quoi, ont refusé son retour et demandé son transfert en médecine pour bloquer son retour, pour le placement.
Et votre époux, il ne se pose...
Donc...
Ouais. Il ne se demande pas pour quelle raison est-ce qu'il ne rentre pas à la maison?
Non.
Non.
Il n'est pas bien au courant de la situation, en fait.
Et vous avez le droit d'aller le voir?
Oui.
Oui, donc ça, au moins, d'accord.
Donc, c'est le docteur de l'hôpital qui me convoque pour me dire « Pourquoi vous avez décidé seule de demander le placement de votre mari ?» Je dis « Voilà. »
Marie-Ange?
Oui.
Oui. Donc, le médecin vous demande pour quelle raison et en fait, vous lui avez dit ben, « ça n'est pas moi. »
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il vous répond?
Alors, je dis, je n'ai rien demandé. Mmh. Donc, il a fait ça en mon nom, sans mon avis, dans mon dos, et on n'en a jamais parlé, décidé. Et je lui dis, ben donc, c'est du tout faux. Et tout le monde m'accuse, me rejette sur du faux, quoi.
Oui. Je comprends que ce soit compliqué pour vous.
Oui.
Là, effectivement, de toute façon, vous n'avez, j'ai envie de dire, pas trop le choix, si ce n'est que de vous défendre, et puis,
oui.
Et puis de voir comment est-ce que vous pouvez rétablir à la fois la vérité et récupérer mmh. votre époux.
Oui, j'ai un peu de preuves pour les vérités, mais c'est pas encore fait tout ça.
Mais c'est compliqué parce que là, j'ai le sentiment que c'est parole contre parole.
Voilà.
Oui, c'est l'infirmière, elle se base sur quel fait pour dire qu'il y a maltraitance.
Oui. Oui, ça fait 3 ans qu'elle est là. Je vous disais, nous, on ne s'attendait pas, on était en confiance, on ne s'attendait pas à ce que ça s'arrête d'un seul coup. Et on subit la double peine, la maladie, puis le rapport d'accusation.
Oui, je comprends.
Donc, je ne voulais pas trop mettre mon mari au courant de tout ça avant d'avoir une réponse moi-même.
Je comprends, Marie-Ange. Encore une fois, moi, ce que je voulais savoir également, c'est sur quel fait cette infirmière a parlé de maltraitance.
Ben parce que, en fait, on a fait des travaux et l'employé, le maçon, a coupé un arbre près de la maison pour pouvoir passer du produit et faire des trous.
Mmh.
Et donc, il est passé par ce petit passage et comme l'arbre était un peu ébréché, il s'est blessé. Et l'infirmière a cherché à savoir, elle a vu des blessures, elle a dit, c'est à tous les coups, c'est maltraitance.
Alors, vous voulez dire qu'en fait, votre époux était sur le chemin
oui.
de ce monsieur qui s'occupait de l'arbre?
Oui, donc, il a un peu coupé les branches grossièrement.
D'accord.
Et mon mari,
il a vu
tout de suite qu'il pouvait passer là parce qu'il y avait des branches, il pouvait se tenir quoi.
Okay,
mais en même temps, quand il s'est passé, c'était un peu ébréché et serré, donc il s'est un peu blessé.
D'accord. Et donc, l'infirmière s'est dit tout de suite maltraitance.
Oui.
Bon. Et vous avez beau eu lui expliquer la situation.
Ah mais... non, j'ai rien expliqué parce que j'ai pas eu le temps.
Ah, mais oui.
Parce qu'elle, elle a vu la blessure.
Exact.
Elle n'a pas cherché à savoir. Au contraire, elle était toute contente d'avoir à faire un rapport là-dessus.
D'accord.
Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a une plainte contre vous, Marie-Ange?
La plainte, c'est avec le docteur.
Mais il n'y a pas de plainte pénale. Je veux dire qu'il n'y a pas eu une plainte auprès de la police. Là, c'est juste une enquête pour maltraitance.
Non, c'est moi qui est allée voir la police. J'ai dit, si quelqu'un pouvait passer, voir, constater les faits, quoi, l'arbre, et puis qu'il est passé, qu'il a pu se blesser et tout. Ben, la police m'a dit, nous, on ne fait pas ça. Et ils m'ont envoyé chez la gendarmerie. La gendarmerie m'a dit, si c'est lui qui est maltraité, eh ben c'est lui qui doit venir porter plainte.
Oui, parce que sur l'aspect judiciaire, ça peut être effectivement quelque chose qui peut vous aider. D'accord. Bon. Écoutez, en tout cas, Marie-Ange, nous, si jamais nous avons des auditeurs qui ont des conseils, des pistes pour vous concrètes, pour vous aider à vous sortir de cette situation, vous pouvez compter sur nous pour vous mettre en contact.
D'accord. Mais là, je peux rajouter que on a passé chez la juge des tutelles déjà. Et à l'audition, la juge me lisait le rapport d'accusation de maltraitance de l'IDE. Vous lui avez mis dans un mauvais état pendant ces 3 ans. Elle l'a appelé l'hôpital pour dire que c'est pas possible de le remettre en retour parce qu'il y a maltraitance à la maison.
Ah, d'accord. Donc, c'est pour cette raison que je vous disais sur quel fait on vous accusait de maltraitance. Donc là, oui, ça n'est pas uniquement le passage de débris d'arbres.
Oui.
Manifestement, il y a autre chose.
Oui, oui. Ben,
Est-ce que c'est de la malnutrition? Est-ce que, factuellement, est-ce qu'il y a autre chose?
Non, parce qu'il y a des blessures. Et puis... des escarres qui ont, soi-disant, qui ont eu du mal à se résorber. Mais je ne comprends pas. Il était allé à l'hôpital déjà. Et après une semaine, le docteur de l'hôpital, il disait que l'escarre résorbée, la blessure, l'escarre résorbée. Donc, il demandait son retour sans placement. Mais c'est l'infirmière et le docteur qui a refusé.
D'accord. Bon. C'est effectivement un peu... c'est spécial hein, comme situation, c'est ça.
Oui, c'est pour ça que je ne sais pas quoi faire.
Mais je comprends. Je comprends totalement votre impuissance face à cette situation, vraiment.
Alors, la juge dit que vous lui avez mis en mauvais état. Donc, sans me laisser le temps de répondre aux accusations de l'IDE, je lui dis, je conteste les raisons, le rapport d'accusation de l'IDE. Et ça ne lui a pas plu et elle a téléphoné à l'hôpital pour dire... on n'autorise pas son retour, mais il faut le placement, quoi.
Bon. Encore une fois, Marie-Ange, j'espère vraiment que, à partir de conseils des auditeurs, vous allez pouvoir trouver des solutions. Vraiment, en ce qui concerne aujourd'hui, hein, le maintenant, l'instantané, un avocat, si vous en avez les ressources, sinon l'aide juridictionnelle auprès de votre mairie, c'est à ce stade tout ce que je peux vous donner comme conseil pour pouvoir vous sortir de cette situation. Parce que là, de toute façon, il vous faut des conseils éclairés sur comment vous défendre et faire en sorte de rétablir la vérité. D'accord ?
Oui.
Bon, Marie-Ange, tenez-nous au courant. J'espère vraiment que ça va se solutionner. Et puis surtout que vous allez récupérer votre époux parce que entre cette accusation qui est fausse et le fait d'être éloigné de votre époux...
Mais là, pour l'instant, il n'est pas chez nous. Hein, il n'est pas à la maison. Justement, la juge l'a fait placer et normalement, il avait droit de revenir à la maison. Je vous ai dit que... d'après le rapport, il a eu droit à son retour sans placement.
Et oui, donc.
Et là, la juge l'a mis en placement parce que je l'ai mis en mauvais état.
Oui.
Et la blessure, c'est pas moi qui l'ai fait.
Bah oui, c'est ce que vous nous expliquez, bien sûr.
Même l'escarre, on m'accuse pour les escarres, mais j'ai rien fait pour ça. Moi, il y a des soignants. Hein,
Justement.
Je ne décide pas, je ne fais pas les soins.
Absolument.
Donc, moi, j'ai vu une aide-soignante qui est venue, qui a juste tapoté les fesses, et puis sans regarder à l'intérieur s'il y avait problème ou pas.
Oui.
Ça, j'ai écrit, dans mes lettres, j'ai noté tout ça, mais je peux rien faire. On ne m'écoute pas.
Eh bien, j'espère que ce soir, on vous aura... En tout cas, on vous aura écouté, ça c'est une certitude.
Ça, c'est bien déjà.
Oui, oui, absolument. Et vous pouvez compter sur nous pour vous mettre en contact avec les personnes qui auront été sensibles à votre histoire.
Alors, malgré tout, mon mari croyait que j'avais eu droit à son retour au domicile. Il se retrouve dans une autre structure. Alors, il dit n'a rien fait pour être puni, rejeté. Et on était bien chez nous, dans le jardin, même s'il s'est blessé, mais il y a des risques de partout. Hein.
Je comprends. Marie-Ange, bon courage. Et j'espère que tout va se solutionner.
La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Accueillons tout de suite Eliane. Bonsoir Eliane.
Oui, bonsoir Sana. Je suis ravie de vous entendre parce que j'ai entendu un mot tout à l'heure qui m'a fait très plaisir, c'est la ASMR.
Bienvenue à la libre antenne Eliane. Oui, effectivement, la ASMR. Ça vous fait réagir. Pour quelle raison ?
Ah bah complètement. Oui, parce que moi, il y a une dizaine d'années, j'écoutais l'ASMR le soir, parce que je suis comme tout le monde, hein, je passais des heures à ruminer, oui. Comme beaucoup de gens. Mmh. Et puis pour dormir le soir, bah, l'ASMR m'a beaucoup aidée. Alors c'était il y a longtemps. Hein. Moi, j'ai abandonné parce que c'était des gens, à cette époque-là, tout au début, que ça existait en France, c'était des gens qui étaient vraiment motivés, qui suivaient une certaine philosophie. C'était vraiment très particulier. Qui était vraiment là pour aider les gens qui avaient des soucis pour s'endormir et tout ça,
oui.
Et qui faisaient ça sérieusement, parce que après, c'est parti en vrille, donc j'ai arrêté, et voilà, c'est dommage. Mais au début, c'était vraiment des gens qui faisaient ça, on va dire, d'une façon très professionnelle, et qui m'ont beaucoup aidée. J'ai écouté différentes personnes, et puis j'ai fini par trouver une personne qui me correspondait. J'aimais beaucoup sa façon de s'exprimer.
Oui.
C'était les chuchotements. C'était une femme qui chuchotait, puis qui lisait des histoires et tout ça. Et j'aimais beaucoup.
Oui.
Alors, il y avait différents styles. Il y avait aussi des hommes, tout ça. Mais c'était des personnes qui avaient 30, 40 ans. Et c'était vraiment différent de ce qui s'est passé par la suite. Parce que j'ai remarqué après que quand c'est devenu, on va dire, un peu plus à la mode, il y a plein de gens qui se sont engouffrés dans la ASMR, beaucoup de jeunes. Et... Mm-hmm. Avec qui faisait des bruits épouvantables, etc. C'était du grand n'importe quoi. Donc, et il y en a même qui ont fini par faire des placements de produits. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc j'ai arrêté. Mais au tout début, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié. J'écoutais le soir.
Oui.
Mais vraiment, c'est...
Alors, voilà. Eliane, si vous êtes d'accord, nous allons expliquer à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est l'ASMR.
Alors, c'est... Alors, en anglais, c'est l'auto... Je ne sais plus comment dire.
Autonomous Sensory Meridian Response.
Voilà,
response,
c'est-à-dire que c'est stimuler l'inconscient par des bruits qui soit rappellent l'enfance ou rappellent voilà, des bons moments, des bruits rassurants,
hein,
des bruits qui nous rappellent quelque chose et qui font qu'on se sente bien, quoi.
C'est de la relaxation.
Alors, moi, j'avais des frissons. Il y a des gens, c'est autre chose. Moi, je sentais des frissons, tout ça, je me sentais bien. Et parce que ça parlait à mon inconscient. Et voilà, comment, pourquoi, j'ai aucune idée. Je préférais les voix de femmes que les voix d'hommes. Pourquoi, je ne sais pas. J'aimais bien les gens qui marchaient sur les feuilles mortes. J'aimais bien... certains bruits, pas tous, hein, certains bruits, mais c'était surtout les chuchotements, moi, que je préférais. Et chaque personne est différente, et moi, vraiment, ça me détendait, et ça me faisait beaucoup de bien.
Ouais.
Et ça stimule le cerveau, mais certaines zones du cerveau, ça, je ne sais pas lesquelles, mais ça détend, ça fait beaucoup de bien, quoi, et ça évite les antidépresseurs et tout ça.
Alors, je ne sais pas si ça évite les antidépresseurs, mais toujours est-il que vous avez raison, il y a vraiment un effet. Donc,
ouais.
En fonction, effectivement, des sons auxquels nous sommes sensibles, et il se passe des choses. Vraiment,
voilà.
je vous invite, chers auditeurs, à faire ne serait-ce qu'une séance d'ASMR testée. Vous allez voir, il se passe forcément quelque chose. Et alors,
ouais.
Moi, je suis comme vous, Eliane, moi, c'est le chuchotement qui me faisait énormément de bien. Vous avez le tapotement parfois des ongles, pour certains, le froissement d'une feuille,
oui,
la plume.
Alors, voilà. Mais il faut que ce soit très doux, parce que ça devient, du Disneyland maintenant. Donc, il faut bien choisir la personne qui fait ça, parce que ça doit être très doux, très calmant. Voilà, parce que j'ai revu des vidéos récemment et c'est du grand n'importe quoi. Donc, il faut vraiment bien choisir la personne que vous écoutez. Et ça doit être reposant, déstressant et... Enfin, je suppose que vous avez dû trouver quelqu'un qui faisait ça très bien.
Oui, ça fait énormément de bien. Et vous parlez de stimulation. Donc, en fait, le principe, c'est vraiment de nous aider à sécréter donc, de la dopamine, hein, qui est l'hormone du bonheur, et puis en même temps de la sérotonine, que l'on retrouve dans les antidépresseurs. Donc, c'est nous qui fabriquons tout seul. Hein, donc, en entendant ces sons auxquels nous sommes sensibles, eh bien... Ouais. C'est parti et vraiment ça fait un bien fou. Donc oui, alors comme vous Eliane, moi c'est une femme, c'est ouais. la voix d'une femme qui me faisait du bien. Et je vais lui faire de la pub parce que vraiment elle m'a... Non mais c'est vrai, moi personnellement elle m'a beaucoup aidée. C'est Cali, C-A-L-I, donc c'est le site D'accord. sur lequel j'allais et je trouvais vraiment à la fois sa voix magnifique, son approche très intéressante et très pro. Voilà, Cali.
Voilà, parce qu'on peut faire la différence entre les pros et les opportunistes qui sont là pour faire du buzz et tout ça. Mais là, il y a vraiment des gens qui... Moi, à l'époque où j'écoutais, il n'y avait pratiquement que des pros, que des gens qui faisaient ça sérieusement.
Ouais.
Et puis je n'ai plus eu besoin après, parce que ma vie a évolué. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, on a que 5 minutes, mais...
Même pas, on a même plus, il ne nous reste plus que 3 minutes.
Ah ouais, bah écoutez...
vous, ça vous a aidé surtout, vous avez utilisé l'ASMR pour sortir de quelle souffrance ou quelle douleur ou... Qu'est-ce que vous aviez
parce
comme...
Que je ne raconte pas. Alors là, il faudrait qu'on en parle, mais on n'a pas le temps là maintenant. Mais
vous savez, Eliane, vous pourrez nous rappeler lundi si vous voulez pour nous parler de l'ASMR et surtout le traitement sur pour quelles raisons vous avez utilisé. Vous avez voulu traiter quoi je pense à Cécile également, qui est une auditrice que j'affectionne particulièrement et elle le sait. Je sais qu'elle m'écoute actuellement et elle m'avait également aidée avec le Reiki. Le Reiki, R-E-I-K-I, également, qui est une... Ce sont des soins énergétiques qui peuvent être faits en plus à distance. Et ça traite également, ça peut traiter pas mal de soucis. Voilà, pour pas dire les mots. Voilà. Donc le Reiki et l'ASMR, donc si vous souffrez, ou si voilà, vous avez des problèmes d'insomnie également...
Oui, c'était ça, moi surtout, parce que je ruminais trop de choses dans ma tête. Et comme je ne suis pas du genre à m'épancher, à raconter ma vie à tout le monde, tout se passe à l'intérieur et ça m'a beaucoup aidée pour ça, pour beaucoup d'autres choses aussi. Mais c'est une façon de m'en sortir. Et après, je suis passée à autre chose. Ma vie a évolué, mais il y a une dizaine d'années, ça m'a beaucoup aidée pendant quelques mois. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Eliane. Merci infiniment. J'espère vous avoir peut-être la semaine prochaine si vous voulez en parler un petit peu plus sur le traitement.
Bien. C'est moi qui rappelle ou vous me rappelez, je ne sais pas.
Absolument. Vous nous rappelez au 3921 à partir de lundi, puisqu'il n'y a pas de libre antenne le week-end. 22h.
Ah, ok, pouvez nous ça marche. Bon, je veux bien.
Oui, moi aussi.
Et ben voilà. C'est parfait.
Je vous souhaite un excellent week-end. Merci infiniment pour cet appel. Merci de nous avoir fait parler de l'ASMR en plus, de façon un peu plus...
Je suis contente, enfin. Et je ne suis pas toute seule.
Oui, absolument. Et donc, un grand merci à Anne, à Benoît, à Marie-Ange. Nous nous retrouvons donc lundi soir à 22h pour de nouvelles confidences sur la Libre Antenne. Et c'est avec Lionel Rousseau et son équipe que vous passerez le week-end, donc Europe 1 Sport. Donc, vous avez rendez-vous tout de suite avec le programme de la nuit et je vous souhaite une douce nuit. À lundi.